Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Oussem Loussaïef, Thibaut Jean-Grand.
Le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. D'habitude, c'est une heure pour revenir sur l'actu omnisport forte de ce week-end. Mais là, ce soir, c'est double dose. On est là jusqu'à 21h avec, comme toutes les semaines, Marie Zévan-GP qui fait du rap également. Oussem est là, bien sûr. Dans l'heure qui vient, on parlera cyclisme avec notre invité Aurélien Paré-Peintre. C'est l'une des révélations du cyclisme français de ces derniers mois. Il a brillé sur le critérium qui vient de se terminer. Il fera le Tour de France qui démarre dans 3 semaines. Donc, on va balayer l'actu cyclisme avec lui. On parlera également de l'Eurobasket féminin qui débute dans quelques jours avec notre invité Andy Millième. Mais d'abord, rugby, ça y est, c'est fini.
Les dernières secondes
au Michelin. Il va y avoir essai pour la section paloise. L'essai de Max Philippe, le 6e essai, et le stade est en folie évidemment, parce qu'avec ce 6e essai, c'est le bonus offensif, et Pau passerait 12e et maintiendrait sa place en top 14.
On a une image dingue de la part de tous les spectateurs du match entre Pau et Montpellier. Tout le monde est rivé sur les écrans de téléphone, de télévision, pour suivre ce qui se passe entre Bayonne et le Stade français.
Terminé à Bayonne qui affrontera donc Biarritz, ce sera samedi prochain.
C'est Sport Show.
Le suspense était total, plus indécis encore que la date de réapprovisionnement de PlayStation dans les magasins. L'épilogue de la saison régulière de Top 14 hier soir. Les 7 matchs avaient lieu en même temps et donc à la fin, vous l'avez entendu, Pau qui s'est maintenu. Bonsoir Jeff Paturo.
Bonsoir messieurs, bonsoir Marie.
Salut Jeff, journaliste rugby, RMC Sport, soirée exceptionnelle. Et ça y est, enfin, on est fixé à tous les étages.
Oui. Enfin,
on a les deux qualifiés.
On connaît pas encore le champion de France.
Il faut attendre un peu de temps.
Mais on connaît déjà les deux équipes qualifiées directement pour les demi-finales du Top 14. Grosse surprise, le Stade Toulousain, champion d'Europe en titre, premier de la saison régulière.
Surprise.
Devant La Rochelle, surprise. Finaliste de la Champions Cup. Bref, les deux meilleures équipes françaises ont tenu leur rang. Et pourtant, ça se joue à rien puisque La Rochelle termine avec 78 points, le Racing 78 points. Le Racing a fait le travail, mais le Racing devra se contenter, entre guillemets, d'une place de barragiste contre le Stade français vendredi soir, on va en parler. Pour compléter, l'Union Bordeaux-Bègles et Clermont sont aussi barragistes. Et enfin, en bas de classement, la section paloise s'est sauvée à la dernière seconde, alors que l'Aviron bayonnais devra jouer un match de barrage contre le Biarritz Olympique, dont on parle déjà beaucoup dans le 64.
Et on va en parler d'ailleurs dans le 75 et dans toute la France, puisqu'on va en parler ce soir dans le RMC Sport Show. On va pouvoir se projeter dans un instant sur la suite, la fin de la saison de Top 14. La suite pour les Palois, c'est les vacances. 12e, il passe devant Bayonne et évite le barrage. La section reste en top 14.
Une bonne
pour la
nuit de sommeil
prochaine.
Aussi, peut-être.
Oui, oui.
Bonsoir Bernard Pondo.
Faire la fête.
Bonsoir, messieurs.
Président de la section paloise. Merci d'être en direct sur RMC ce soir. Est-ce que le président que vous êtes a donné le top départ des vacances? C'est bon, c'est lancé, ça?
Non, pas vraiment, non. On va se quitter jeudi, on va mercredi. C'était un petit peu le départ de certains. Voilà, quelques étrangers, mais aussi, y en a qui vont rejoindre d'autres clubs et d'autres joueurs arriveront. Donc, on va se quitter mercredi. Mercredi soir, c'est prévu de se quitter avec une réunion de famille, si je puis dire.
Quand vous dites réunion de famille, c'est une réunion de famille qui va aller jusqu'à très loin dans la nuit, par exemple?
Non, je pense pas, parce que ça, je pense, c'est déjà fait. Donc, on va pas remettre ça tous les deux jours. Mais... Enfin, pour ma part, je suis un type raisonnable. Et puis bon, vu l'âge, on se calme. Mais d'autres, je pense, ont eu des soirées privées. Oui, on va pas le nier. Ça, c'est...
soirée privée. Privée. Merci d'avoir précisé. Jeff Paturo.
Bernard, comment vous avez vécu cette fin de soirée complètement folle? Parce que vous faites le job. Vous marquez les 7 bonus à la fin, dernière seconde. Ouais. Et vous attendez le résultat de Bayonne. On voit tout le monde qui est rassemblé, qui attend ce moment.
L'image est folle. Bah,
ces ans de président, je suis passé à travers pas mal de filtres, mais celui-là était quand même très étroit. Hein, vraiment, c'était c'était particulier. Je pense que certains joueurs se sont exprimés là-dessus, notamment Malier. Il a dit c'est probablement la plus grosse émotion que j'ai eue depuis 6 ans. Il en a eu d'autres. On a eu, mais c'est vrai qu'on a eu sur le fond après la montée des années relativement simples. Sur le 1, avec des bonheurs, mais relativement simples. On a été à la porte du top 6, on a eu des émotions de ce type-là, mais celle-là était quand même, je dirais, libératrice, parce qu'on a quand même accumulé énormément de frustration, c'est le terme, frustration, déception, sur pas mal de journées. Donc, où ça s'est passé à très peu de points, où il y avait même des matchs qu'on devait emporter, qu'on n'a pas eu, je dirais, allez, l'intelligence situationnelle, comme disait le grand homme, pour les gagner. Donc, ouais, c'était très frustrant. Cette frustration, automatiquement, elle génère, en contrepartie, une joie intense. Après, c'était un scénario de dingo, si je peux le dire. Donc, il y avait tous les ingrédients, je dirais, liés à la tragédie. Enfin, c'est un grand mot, mais oui, les règles de temps et de lieu étaient respectées. On peut dire la tragédie, oui.
Président, avant de revenir sur la rencontre et ses détails, quand vous regardez un peu en arrière sur votre saison, est-ce qu'à un moment donné, alors je sais que c'est difficile à dire quand on est président, mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, là, ça risque d'être très compliqué pour se maintenir ?
Ouais, parce que vous savez, quand on peut contrôler qu'une chose, c'est soi-même. Hein.
Ouais.
À un moment donné, quand vous dites, y a pas que moi, il faut que les autres aussi fassent le job, ça fait beaucoup de paramètres. Donc, l'équation devient compliquée, il y a trop de variables. Et effectivement, je me suis dit, bon, on fera le job et puis on verra bien. Après, on est parti depuis, disons, quelques mois, ça je peux le dire maintenant, où on a dit, bon, il y aura un match de plus que les autres, potentiellement.
Ouais.
Et ça, on s'y était quand même préparé. Dès l'arrivée de Sébastien Piccheroni, au mois de mai, on a dit, bon, on aura X matchs. À l'époque, c'était 6, je crois. On aura 6 matchs, on aura 7, quoi, potentiellement. Ouais. Et aujourd'hui, on ouvre un nouveau livre et on va voir combien on peut gagner ces 7 matchs. On est parti sur ce principe-là. Et on a travaillé là-dessus et on a travaillé aussi par rapport à des petits détails qu'il fallait. On peut pas tout, dans une saison, tout changer dans un système de jeu. Les corrections, c'est des petites touches. Ça peut pas être très en profondeur. Mais au-delà de ça, il y avait quand même un fond, et un vrai fond de jeu. On l'a vu. On n'a pas été petits bras. Les mecs n'ont pas été petits bras parce que le dernier essai qui est marqué un peu libérateur, il est quand même osé. Je dirais, il était quand même plus facile peut-être de le jouer balle en main sur des espaces créés sur la droite du terrain, alors qu'on est allé chercher quand même une passe au pied qui était très millimétrée, très belle, de Clovis, mais
cet essai que la section paloise marque, Bernard Pono, je rappelle le président de la section paloise qui est en direct sur RMC ce soir, c'est cet essai qui vous sauve à la toute dernière minute, corrélé à une pénalité inscrite par le Stade Français 5 minutes plus tôt, donc qui permet à la section paloise de terminer 12e et de se sauver. Dernière minute cette année, comment vous envisagez la saison prochaine pour peut-être éviter d'attendre la dernière minute de la dernière journée pour assurer votre maintien?
Écoutez, moi j'ai envie de dire, on ne peut pas présumer de rien. Ce qu'on apprend en sport, c'est l'humilité. Si on ne l'a pas, ça craint. Mais disons que partons du principe qu'on a un groupe quand même dans son noyau dur qui reste ensemble. Et je pense que quand on a souffert, on n'a pas envie d'y revenir, ou du moins pas de la même façon. On a envie peut-être d'un petit peu plus de plaisir, de challenger, mais de manière différente. Parce que là, c'est quand même une souffrance un petit peu dure. Oui. Je crois que on est des animaux quelque part. Hein. J'espère que ça fera des gens excessivement soucieux d'une bonne préparation, d'être très studieux dans ce qu'on veut mettre en place. Et pour les dirigeants, aussi c'est un soulagement parce que on veut ouvrir le livre de la saison prochaine, on veut aller vers nos objectifs court terme et long, moyen terme et long terme. Mais vous savez, quand vous êtes quand même dans ce doute, c'est un doute sur le terrain pour les joueurs, parce que ça c'est ce phénomène de doute collectif est quand même une spirale négative dure à rompre, au même titre qu'elle est parfois génératrice de chose extraordinaire quand elle est positive. Mais pour les dirigeants, c'est pareil. Je dirais c'est compliqué de se projeter. Et le manque de perspective liée au Covid, que ce soit dans nos contextes, je dirais économico-sportifs, plus cette douleur sportive de ne pas savoir où on sera, ça faisait beaucoup de choses, effectivement. Ouais. Donc il fallait quand même beaucoup de concentration pour se dire non, on occulte et on avance.
Oui. Donc,
bravo en tout cas, bravo, parce que la section s'est maintenue hier à la dernière minute, 12e de top 14 et jouera donc dans l'élite la saison prochaine. Bravo et merci, bravo. Bernard Pono, président de la section.
Merci beaucoup
d'être venu ce soir sur RMC.
Au revoir.
Et à très vite, bonne soirée. 20h13, le RMC Sport Show continue, toujours avec Jeff Paturo, journaliste rugby, avec Marie-Zévan Gépé, notre membre de la Dream Team. On s'intéresse à cette dernière journée de top 14 de la saison régulière, Jeff, parce que c'est fini pour la saison régulière. Mais justement, on va entrer dans le vif, la peau est en vacances. vacances. C'est donc Bayonne qui va devoir jouer son maintien sur un seul match. Ce sera la semaine prochaine contre Biarritz, finaliste malheureux de Pro D2 hier contre Perpignan. Et tiens, écoutons Yannick Bru, l'entraîneur bayonnais, dès la fin du match hier soir, après la défaite contre le Stade Français 12-9. Yannick Bru était déjà tourné sur ce barrage.
J'ai confiance vraiment dans le niveau de notre équipe, mais je suis déterminé, déjà tourné de manière très positive vers le grand rendez-vous de samedi prochain. Je pense qu'on sera prêt avec la saison qu'on fait, les embûches qu'il y a eu, 10 victoires, certaines probantes. Vous verrez, on sera prêt samedi.
Jeff, derby basque, est-ce qu'on sait où est-ce que va se dérouler ce match ?
Mais oui, bien sûr, à Aguilera, sur la pelouse de Biarritz, puisque ouais. C'est le club de Pro D2 qui a l'avantage pour le match d'accession.
Pas comme en foot. En foot, c'était à Nantes.
Oui, c'est sur un seul match, contrairement au foot.
Ouais. Exactement. Oui. Donc rien à voir avec le
rien
foot,
à c'est ce que tu
veux me dire. Fait, là, c'est...
Oui, c'est samedi, 17h30. On connaît tout, en fait. On connaît tout à l'avance. En
ah, le rugby, sauf qu'est-ce qu'ils sont organisés à part pour faire des compétitions ?
Quand Yannick Brudy, on sera prêt, je peux vous dire que toute la semaine à Biarritz, dès qu'il va sortir de chez lui, on va lui en parler tout le temps.
Ah bah c'est le match à pas perdre.
Il y a seulement 5 km entre les deux villes.
Et quand tu dis Biarritz, parce qu'il habite à Biarritz ou ta langue a fourché ?
Non, ma langue a fourché. Justement,
d'accord,
c'est pour vous dire que
okay.
La proximité.
C'est pour vous dire que ce match, on l'attend vraiment avec impatience. Il y a 5 km entre les deux.
C'est un match de barrage. Maryse, on se souvient il y a quelques années des histoires de fusion. Rappelez-vous, Bayonne, Biarritz, etc. J'imagine.
On
n'en
parle plus là.
Que dans le Moscato Show de l'époque, on en a parlé légèrement. D'avoir ce match sur un seul match entre les deux, il y en a un qui accède au top 14 ou qui se maintient, l'autre qui est relégué. Ah là, c'est dramaturgie là, c'est exceptionnelle.
Oui, après, bon, la rivalité entre les deux, elle existe depuis toujours, parce que sincèrement, quand on parlait de rapprochement, personne n'y a jamais cru. Hein. Ça a été vaguement évoqué par les dirigeants, mais sur les deux terrains, ce sont bien deux entités très différentes. Après, là, c'est vrai que le scénario, il est fantastique. Quoi. On dirait presque un match de saoule au sens le plus pur du terme, à savoir les origines du rugby quand deux villages se faisaient la guerre.
Jeff, quelle est celle des deux équipes qui est le mieux préparée ?
C'est compliqué puisque vous dites que Bayonne, avec une saison galère, qu'ils ont pris un coup sur la tête hier, que le Biarritz Olympique est plutôt dans une bonne dynamique, hormis évidemment sa défaite hier en finale contre Perpignan, finale de Pro D2. Souvent, le club de Pro D2, sur les deux premières éditions, avait battu le club de top 14. Ah. Mais là, c'est vrai qu'il y a un derby. Ça va dépasser encore tout ça, puisque le derby, ce sera toute la semaine en dehors, ça va être sur le terrain après, et qu'il va falloir aussi gérer cet élément psychologique, car c'est pas un match comme les autres, en fait.
Et oui, ce qui est exceptionnel, en plus, sur ces barrages, c'est que vraiment, ce sont des barrages sous le signe du derby, puisque dès vendredi prochain, le Stade Français affronte le Racing 92.
Oui, il va être sympa, ça.
Et oui, là aussi, ces barrages, mais pour se qualifier pour les demi-finales du top 14 et affronter La Rochelle en demi-finale la semaine d'après, bah justement, hier, pareil, après la victoire du Stade Français sur la pelouse de Bayonne, d'ailleurs, Jonathan Danty, qui dispute sa dernière saison au Stade Français, se projetait lui aussi déjà sur ce barrage face au Racing 92.
On a gagné là-bas il y a quelques semaines, mais là c'est différent. C'est un barrage, c'est des matchs où si on met un peu en dedans sur la première mi-temps, ben ça passe pas. Donc voilà, il va falloir qu'on se ressoude un peu cette semaine. A priori, on va pas beaucoup s'entraîner. Je pense qu'on est en fin de saison, on est tous un peu fatigués. Donc là, c'est les moments où on régénère pas mal, où on récite un peu notre plan de jeu. Et puis dans une semaine, on va essayer de mettre une grosse intensité pour essayer d'aller le plus loin possible.
Jeff, Jonathan Danty qui parle de peu s'entraîner, de récupérer de l'influx nerveux, ça va se jouer au mental, cette rencontre-là, clairement ?
C'est difficile de savoir sur quoi ça va jouer, parce qu'il faut rappeler que les deux équipes ont là aussi une rivalité historique, que les deux équipes ont gagné chacune un match cette saison, sur le terrain de leur adversaire en plus, que par exemple le Racing 92 avait battu le Stade Français en début de saison, puis le Stade Français a gagné sur la pelouse de Paris La Défense Arena, alors que Gaël Ficou venait de partir du Stade Français pour aller au Racing. On en avait beaucoup parlé tout au long de la semaine. Peut-être qu'on va encore en parler dans les jours à venir.
C'est sûr.
Ça, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il faut aussi se rappeler qu'en 2015, il y a eu un match de barrage entre les deux équipes en top 14, que le Racing avait perdu contre le Stade Français qui recevait alors, et que le Stade Français, quelques jours plus tard, avait été sacré champion de France. Est-ce que ça peut se reproduire ? Tout est possible. On rappelle que le Racing a mieux terminé la saison au classement, 3e contre le Stade Français, 6e, mais sur un match comme ça de phase finale, tout est possible.
Et ce qui est exceptionnel, tu en parlais, dans la dramaturgie, là aussi, non seulement il y a le derby, mais il y a cette histoire qui est au centre de ce match. Gaël Ficou, joueur du Stade Français, qui est parti en mars.
Il est parti en avril.
En avril.
En fait, il devait partir.
Quel voisin.
Ouais, on avait appris quelques semaines auparavant qu'il allait rejoindre l'ennemi, le voisin, en tout cas, ciel et blanc du Racing, pour la fin de saison. Sauf qu'au mois d'avril, patatras, il quitte le Stade Français pour rejoindre le Racing avec effet immédiat. Ça, ça a fait l'effet d'une bombe. On en a beaucoup parlé. Il, lui, s'entend toujours très bien avec ses anciens partenaires. Il avait peu aimé les déclarations de Hans-Peter Wiel, le propriétaire du Stade français, qui avait un peu remis en cause son état d'esprit. Mais c'est vrai que ça va être un match assez électrique, avec des joueurs qui veulent absolument bien, vraiment finir la saison par un match pas comme les autres.
Il est 20h18, c'est le RMC Sport Show en direct avec Jeff Patureau, notre journaliste rugby, avec Maryse Evangépé, notre membre de la Dream Team. Et on s'intéresse à cette fin de saison de Top 14 qui se profile après la dernière journée hier de la saison régulière. L'autre barrage, UBB.
Ouais, mais c'est pas un derby, là.
Eh non, c'est nul. Bon, on n'en parle
ouais,
pas.
Ouais, on n'en parle ouais. pas.
Ah, si, on en parle quand même. Tu sais pourquoi on va en parler?
Oui.
Parce qu'on va écouter Christophe Furios, l'entraîneur de l'UBB. Bordeaux-Bègles qui a perdu hier son dernier match de la saison contre Toulouse, 21-10. Une défaite qui n'empêche pas la qualification de l'UBB, hein, qui affrontera donc Clermont pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. Il n'a pas aimé, je crois, trop la défaite de son équipe hier, Christophe Furios.
C'est une sérieuse piqûre de rappel. Il faut vite se remettre la tête à l'endroit. On se regarde marcher, on fait les beaux. Hein. Clermont va nous mettre à la page, hein, sec. Hein. Parce que Clermont, c'est une équipe qui est très, très physique. Hein. Donc si on fait les beaux, on va se faire ramasser. Hein.
Langue de bois, Maryse. Ouais.
Maryse, c'est pas plus mal de perdre avant un match important? Non mais tu sais pourquoi? Parce que si tu comprends son discours, il va leur rentrer dedans et tu vois ils vont repartir à zéro.
C'est ligue animale, c'est sûr que c'est une alerte, c'est un avertissement sans frais comme on dit. Tu vois la claquette sur les doigts, attention mon gars, reprends-toi. Donc ça peut être pas mal. Après pour la confiance, on a besoin de gagner aussi. Donc c'est entre les deux quoi.
Mais il faut rappeler aussi cette saison que les deux confrontations étaient très serrées, victoire de l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse de Clermont 37-36, et qu'il y a eu un match quelques semaines plus tôt, 16 partout. Et là, je peux vous dire aussi que
indécis quoi.
Ouais, Christophe Furios qu'on entendait là, était déjà rentré en phase finale depuis quelques jours avant ce match. Autant vous dire qu'il devait casser les pieds de ses joueurs. Là, il va être bouillant tout au long de la semaine, surtout qu'à la clé, il y a un billet pour retrouver le Stade Toulousain. En demi-finale, le Stade Toulousain qui a éliminé l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale de la Coupe d'Europe
ouais.
Avec notamment des retrouvailles face à Hugo Mola. Et là, ça va être chaud bouillant cette semaine. Clermont n'est pas favori sur le papier. Clermont a réalisé une saison en dents de scie. Et pourtant, les Clermontois sont là. Ils ont peut-être rien à perdre. Ils ont un coup à jouer. Mais c'est vrai que Bordeaux-Bègles va être très très chaud cette semaine.
Si on récapitule, Jeff, là, le tableau final de ce Top 14, les matchs et les dates.
Vendredi 11 juin, c'est-à-dire vendredi prochain, 20h45, vous écouterez tous RMC, puisqu'il y aura Racing 92, Stade français.
Il n'y a plus Koh-Lanta, c'est fini, donc pas d'autres excuses.
Non, bah, il y a l'Euro, mais c'est un peu l'excuse pour tout le monde, malheureusement. Oui, ça marche pas. Le samedi, le lendemain, 20h45, Bordeaux-Bègles contre Clermont. Une semaine plus tard, à Lille, puisque les deux demi-finales auront lieu à Lille, à Villeneuve-d'Ascq. Le vendredi soir, La Rochelle contre Racing ou Stade français. Puis le samedi, Toulouse contre Bordeaux-Bègles ou Clermont. Et enfin, le vendredi 25 juin, la finale du Top 14.
Où est-ce qu'elle aura lieu, la finale, cette saison?
Au Stade de France.
Eh oui.
Et avec peut-être un peu de public? Ou alors on a mis le match à 21h?
Bah, à ton avis. Il peut y avoir 5000, hein. Il y a bien du monde, 5000 pour le foot, je le rappelle.
Tout à fait, parce qu'à partir de mercredi prochain...
Le foot, c'est
23
mardi.
23h, le couvre-feu.
Exactement. Merci Jeff Patureau pour on a lancé la fin de saison de Top 14 ce soir.
Tu seras à Lille, toi?
Peut-être.
Ah,
oui, je serai.
À bientôt, Jeff. 20h21, c'est le RMC Sport Show. On est en direct.
Bien.
20h21. Mais on n'a pas d'habitude. Nous, on est là d'habitude de 19h à 20h. Ensuite, c'est le RMC Football Show. Bon, ce soir, c'est double dose.
Allez,
on
bon
est là
courage,
jusqu'à 21h avec Maryse Evangépé, avec vos messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Je vois déjà des messages qui arrivent pour notre invité tout à l'heure, Andy Millième, qui sera avec nous à 20h45. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Pareil pour Aurélien Paré-Peintre, qui arrive dans un instant. Il vient de terminer 13e du Critérium du Dauphiné. Il va participer à son premier Tour de France dans 3 semaines et c'est peut-être l'avenir du cyclisme français. Le RMC Sport Show continue, à tout de suite.
RMC Sport Show,
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grande
et Maryse Evangépé, comme tous les dimanches soirs, pour revenir sur l'actu forte Omnisport de ce week-end. On est là exceptionnellement jusqu'à 21h à suivre, Oussem.
L'équipe de France féminine de basket vient de conclure sa préparation à l'Euro qui démarre le 17 et qui se finira le 27 juin. On aura avec nous Andy Meyem, ailière et titulaire incontestable de cette équipe.
Nous sommes dimanche le 6 juin, il commence à faire beau, à faire chaud, l'été approche. Et vous le savez, en France, il ne peut pas y avoir d'été réussi sans un nouveau tube de Kinvé.
Je garde le sourire.
T'es sûr de ça?
Oui, non. Alors, Ok, ça c'est cadeau.
Je pensais que tu parlais d'événements qui avaient tout le temps lieu l'été. Aussi.
Ça c'est juste cadeau, vous l'avez en tête pour 3 semaines. Pas d'été réussi surtout, sans le Tour de France. Ah. Voilà, c'était ça qu'on voulait dire. Le grand départ, c'est dans 3 semaines. Et aujourd'hui, Richie Porte a remporté le classement général du Critérium du Dauphiné. C'est la dernière grande course à étapes avant le Tour de France. Un événement qui a été suivi cette semaine par notre envoyé spécial Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Salut, complètement dingo. Ouais. Un petit kinvé pour l'été quand même. On est bien Arnaud.
Salut Arnaud. Tu vas l'avoir en tête pendant tout le Tour de France.
Dans quelques instants,
ouais, c'est ça.
On sera avec le deuxième Français de ce Critérium du Dauphiné. Il s'appelle Aurélien Paré-Pinte. Il fera le Tour de France. Il a terminé 13e du Critérium et c'est peut-être l'avenir du cyclisme français. On en parlera avec lui, avec toi Arnaud. Mais d'ailleurs justement, les derniers enseignements avant le Tour de France, tu vas nous les donner. On les a eu cette semaine avec le Critérium du Dauphiné.
Ben, en attendant de parler de l'avenir, parlons d'un vétéran qui a remporté ce critérium du Dauphiné. Enfin, j'ai envie de dire, Richie Porte, l'Australien originaire de Tasmanie, hein, qui a 35 ans et qui, eh bien, donc remporte ce critérium après notamment avoir terminé à plusieurs reprises à la deuxième place et notamment en 2017 alors qu'il avait mené toute la course. Jakob Fuglsang l'avait doublé sur le fil. Donc, c'est un coureur de l'équipe Ineos que le grand public connaît bien. Il a terminé troisième du dernier Tour de France. Il avait remporté Paris-Nice à deux reprises, le Tour de Catalogne, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, bref, un coureur qui est habitué au succès, mais qui a eu beaucoup de malchance, on va dire, dans ses aventures sur les grands tours et particulièrement sur le Tour de France. Donc, il pourrait, pourquoi pas, être l'un des leaders de la formation de l'ogre Ineos, en compagnie notamment de Geraint Thomas ou encore de Richard Carapaz, excusez-moi. Donc on verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, on a une certitude, c'est que la formation Ineos Grenadier, eh bien, elle a beau avoir été un petit peu secouée sur le dernier Tour de France, elle a de la ressource. Elle vient de remporter le Tour d'Italie avec Egan Bernal, et donc là, elle a fait une démonstration de force cette semaine. J'ai envie de dire, c'est quand même le principal enseignement de cette semaine du Critérium. Porte premier, Thomas troisième, deux Ineos Grenadiers sur le podium. C'est voilà, un petit avertissement, on va dire, aux autres équipes en vue du Tour de France.
Ineos donc au rendez-vous. Thibaut le disait, Arnaud, Aurélien Paré-Pètre, jeune talent français, sera avec nous
quand il sera avec nous dans un instant. L'appelle peintre, pas comme ça.
Je dis quoi, Paré-Pètre?
Je sais pas, mais t'as pas dit son nom correct.
Je dis Paré-Pètre, mais c'est Paré-Peintre. Désolé Aurélien, je lui dirai en face que c'est Paré-Peintre. On parlait des talents français. Quels sont les enseignements côté français, Arnaud, à retenir de ce Critérium?
Écoute, tu parles d'Aurélien Paré-Peintre, on va en parler dans quelques instants avec lui, qui a été 13e meilleur jeune l'an passé et qui cette année, eh bien, est 13e du classement général et 2e meilleur jeune derrière David Godu qui lui a fait a montré, hein, qu'il était vraiment en train de prendre beaucoup de maturité. On en attend beaucoup, hein, du grimpeur breton de l'équipe Groupama FDJ qui partagera le leadership cette année sur le Tour de France avec Arnaud Démare. Il a montré qu'il était vraiment présent dans un contexte pourtant où il avait subi une énorme chute il y a quelques jours, quelques semaines, lors d'un stage en altitude, une chute à 70 km/h. Il s'en était tiré miraculeusement avec quelques égratignures seulement. Et bien il est là, il n'est pas en pic de forme, mais il est quand même à 1/12 seulement de Richie Porte au classement général, dont 44 secondes perdues sur le contre-la-montre. Ça veut dire qu'il faudra bel et bien compter avec David Godu dans quelques semaines sur le Tour de France. David Godu, c'est un jeune talent français qui a déjà remporté 2 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne et qui a quelques autres succès de prestige. Et donc Aurélien Paré-Peintre qui lui termine 13e, et c'est une très très belle performance, mais j'imagine qu'on va en parler dans quelques instants.
Exactement, bah tiens, si on en parlait maintenant, tu le disais, Richie Porte a remporté le classement général à l'issue d'une dernière étape remportée aujourd'hui sur le Critérium par Padoun, comme hier d'ailleurs. Et nous sommes en direct avec celui dont parlait notre envoyé spécial sur la route du Critérium du Dauphiné, Arnaud Souk, qui a terminé 13e, deuxième français au général. Aurélien Paré-Peintre est l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Ben, merci surtout à toi d'être avec nous ce soir. Félicitations pour ce beau Critérium. On disait il y a quelques instants qu'il n'y a pas d'été réussi sans Tour de France. Pour toi, ça va être un été exceptionnel parce que tu vas y participer pour la première fois de ta carrière.
Ouais, c'est sûr. C'est la plus grosse course de l'année dans le cyclisme. Donc ça fait plaisir de découvrir cet événement. Voilà. En plus, j'espère que ça ne sera pas que de la découverte. J'espère pouvoir être acteur sur les 3 semaines. Donc voilà, c'est un réel plaisir. Maintenant, il ne reste plus que, plus que 3 semaines, c'est un peu la ligne droite finale pour la préparation jusqu'au départ.
Aurélien, on va regarder tes ambitions avec toi, parce que quand on regarde un peu ce que tu as fait ces derniers mois, c'est vrai que tu es quand même sur des stats un peu incroyables. 13e aujourd'hui donc sur le Dauphiné, on le disait, tu as fait top 10 sur le dernier Paris-Nice, 16e du dernier Giro. Comment tu le sens, toi, sur le Tour de France? Est-ce que tu peux déjà définir dès aujourd'hui tes objectifs?
Oh, c'est un peu compliqué de définir les objectifs. Voilà, parce que c'est vrai que je suis en constante progression depuis un an et demi, donc je sais pas trop où sont pour l'instant mes limites. Au début de la semaine, si on m'aurait dit que j'allais finir dans les 15 premiers du Dauphiné avec le gratin mondial des grimpeurs, j'aurais signé dès demain tout de suite. Voilà, pour le Tour, je sais pas exactement où je vais me situer. On aura forcément des ambitions, notamment aussi avec Ben O'Connor qui a fait un très bon classement général cette semaine, donc... Voilà, c'est difficile de dire une place chiffrée, 8, 10, 12, 15, 20, aucune idée. Après, voilà, comme je disais cette semaine, chaque jour, je donne le meilleur de moi-même. On verra bien le résultat à la fin de la semaine. C'est un peu le fil conducteur qu'on se fixe avec l'équipe.
Aurélien Paré-Peintre est l'invité ce soir du RMC Sport Show, 13e du Critérium du Dauphiné, qui sera l'un des fers de lance de l'équipage AG2R Citroën sur le Tour de France. On est avec Marie-Zéven Gépé et Arnaud Souk. Aurélien, Arnaud qui t'a suivi cette semaine sur le Critérium et qui a une question. Arnaud, t'écoute.
J'imagine, oui, Aurélien, que mentalement aussi, t'as passé un cap cette semaine, parce que même si t'as perdu un petit peu de temps, aujourd'hui, t'étais un petit peu court dans le col de Jouplan, c'était pas forcément le cas hier, c'était même pas du tout le cas hier. J'imagine que pouvoir terminer avec les meilleurs, te savoir capable de terminer avec les meilleurs dans des énormes ascensions, ça, c'est aussi une manière de franchir un palier.
Ouais, c'est ça, exactement. Hier, ça a vraiment fait tomber un petit verrou psychologique de voir que j'étais capable d'accompagner les meilleurs en montagne. Parce que comme je le disais pour l'instant, voilà, on me disait t'as fait un bon chrono, je disais oui, c'est important de m'appliquer sur le chrono, parce que pour l'instant je suis pas en mesure de prendre du temps en montagne, voire j'en perdais. Donc comme hier, c'est vrai que c'était vraiment un verrou psychologique qui a sauté, de pouvoir assurer avec les meilleurs. Et puis ouais, aujourd'hui c'est sûr qu'il m'en a manqué un petit peu, mais si on compare, je suis à la même place qu'hier, parce que si on enlève les échappés, ça fait pareil, 13e au niveau des leaders aujourd'hui, donc ouais, c'est sûr que j'ai passé un petit verrou et maintenant ça montre que j'en suis capable et c'est encourageant pour la suite, quoi.
On a l'impression, Aurélien, que tu progresses à ton rythme, peut-être plus lentement que certains coureurs, mais régulièrement sans t'arrêter. C'est vrai qu'il y a des mecs qui arrivent, on les voit pas venir, ils ont 20 ans, ils explosent, etc. On peut penser à Bernal ou à d'autres. Toi, tu as 25 ans aujourd'hui, mais mois après mois, année après année, tes résultats s'améliorent de manière logique. Est-ce que tu as une limite? Est-ce que tu as une... peut-être tu as des limites.
Un plan de carrière précis.
Oui, voilà. Est-ce que tu sais où tu vas t'arrêter?
Non, pour l'instant, voilà. C'est vrai que j'ai jamais été chez les espoirs, ni en arrivant chez les pros tout de suite un crack. Après, c'est vrai que là, on travaille bien avec l'équipe depuis maintenant 2 ans et demi que je suis passé chez les pros, et ça va continuer au moins pour les 3 prochaines années. Donc, on a une relation de confiance. Chaque année, on met des choses en place, un petit peu plus au niveau de l'entraînement, des choses aussi sur le matériel. Donc, tout ça se met en place. Et pour l'instant, il reste encore des choses à mettre en place. Donc, c'est vrai que je ne sais pas encore où sont mes limites. Et je suis en constante progression. Donc, j'espère que ça va continuer au cours des prochaines années.
Aurélien, tu parlais tout à l'heure de ces 3 semaines qui se présentent devant toi, la préparation pour le Tour. Comment elles vont se dérouler, ces 3 semaines? Est-ce que tu sais déjà, dès demain, ce que tu vas faire pour ce Tour de France?
Non, je ne sais pas encore. Dès demain encore, je ne peux pas dire encore quel va être mon rôle. Voilà. Surtout que la sélection n'est pas encore officielle, n'est pas définitive. On ne sait pas encore on ne sait pas encore les 8 coureurs qui seront présents. Donc, ça va être... dépendre aussi de la composition. Après, ouais, c'est sûr qu'on aura forcément un début de Tour qui sera important, avec les étapes en Bretagne, notamment avec des garçons comme Greg Van Avermaet ou comme Benoît Cosnefroy, avec des arrivées escarpées qui, voilà, plutôt puncher, qui devraient correspondre à l'équipe. Donc on aura des ambitions dès le départ. Après, on aura forcément, c'est l'ADN de l'équipe, on aura forcément un fil conducteur pour le classement général, comme on l'a toujours fait sur les courses par étapes. Et puis l'objectif, comme sur sa course, c'est de remporter des étapes.
Aurélien Paré, peintre, cycliste français de l'équipe AG2R Citroën, 13e du Critérium du Dauphiné qui s'est achevé aujourd'hui, est en direct dans le RMC Sport Show. On est toujours avec Arnaud Souk, notre journaliste cycliste qui a couvert cette étape, avec Maryse Vangépé, notre membre de la Dream Team. Aurélien, c'est vrai que tu progresses petit à petit, du coup tu commences petit à petit à rencontrer les journalistes, et des fois on a des questions un petit peu reloues de journalistes, quoi, des questions de journalistes. Maryse les connaît bien, nous entend à longueur de semaine les poser. C'est vrai que le cyclisme français, on a l'impression qu'il y a un peu un tournant. Il y a une génération en laquelle on a placé beaucoup d'espoir, les Bardet, les Pinot. Il y a un petit trou, et puis il y a une relève qui semble arriver avec David Gaudu, par exemple, avec toi qui arrive petit à petit. Est-ce que la relève du cyclisme français, tu peux te considérer dedans?
Ouais, je pense que voilà, c'est vrai que c'est ma génération avec David, mais je suis passé pro un petit peu plus tard. Quand il avait remporté le Tour de l'Avenir, j'étais avec lui. Donc c'est vrai qu'il y a une belle génération là, 96, 97, notamment c'est avec Valentin Madouas. C'est une nouvelle génération qui arrive. Après, voilà, on veut pas du tout mettre à la porte la génération d'avant, parce que voilà, il y a encore des belles performances, notamment Romain Bardet sur le dernier Giro. Enfin voilà, c'est juste qu'il y a aussi des jeunes qui arrivent. Et voilà, je trouve que c'est super intéressant pour le vélo français, ouais, d'avoir
Romain Bardet. Tu lui as pris sa place un petit peu à Romain Bardet, parce qu'il a quitté, l'équipe AG2R Citroën, et c'est un peu toi qui va avoir le rôle qu'il avait l'année dernière.
Oui, c'est sûr, j'ai un peu pris le rôle d'un peu plus de leader sur une course par étape. Après, voilà, pour l'instant, j'ai de loin la prétention de faire les résultats qu'a effectué Romain dans le passé, avec plusieurs podiums autour, plusieurs podiums au Dauphiné, des victoires d'étape sur de grandes courses sur le Tour. J'en suis encore loin. On en est bien conscient avec l'équipe, mais c'est vrai que petit à petit, c'est à quoi j'espère arriver, quoi.
Arnaud Souk, journaliste cyclisme, est avec nous aussi pour cette interview. Arnaud, quand on préparait cette interview d'Aurélien, tu nous disais tout le bien que tu pensais de lui, et surtout ce que venait de dire Thibaut, c'est qu'Aurélien fait partie des visages français à retenir pour demain.
Bah oui, c'est sûr que, mais il les a cités, hein, de toute manière, enfin, tu les as cités, Aurélien, ces visages. T'as cité Valentin Madouas, dont on est à peu près certain qu'il finira également par faire de grandes performances. Il en a déjà fait, d'ailleurs, hein, sur les grands tours, en faisant de jolis classements généraux. On est persuadé, on espère pour lui surtout, qu'il parviendra à faire de grandes performances sur des classiques. David Gaudu, voilà, qu'on apprend à connaître. Et puis donc toi, Aurélien, effectivement. Aurélien, moi, j'avais une question à te poser. Alors, plus sur le vainqueur du jour, justement, ce fameux Marc Padoun, voilà, qui est de la même génération que toi. Est-ce que toi tu le connaissais? Enfin, quand je dis de la même génération, il est même de la même année que toi, vous avez 4 mois d'écart. Est-ce que toi tu le connaissais? Je crois que tu as couru ensemble en junior avec lui, parce que c'est vrai qu'il avait l'air de débarquer d'un petit peu nulle part. En tout cas, c'est ce que semblait dire un petit peu aujourd'hui le peloton. Toi, qu'est-ce que tu peux dire de ce coureur?
Oh, bah, c'est vrai que j'ai couru avec lui. Je me rappelle, il avait été échappé, je crois, lors d'un championnat du monde espoir aussi à Innsbruck. C'est un coureur qui a toujours été bon, hein. Il y a quelques années, il me semble qu'il avait fait un gros numéro sur une des dernières étapes du Tour des Alpes, je crois aussi sur l'étape Rennes. Donc,
ouais, non, il avait gagné.
Ouais, c'est ça. Ça a toujours été un bon grimpeur, un bon coursier. Donc, non, moi, ces performances-là, de victoire d'étape sur cette fin de Dauphiné, étaient vraiment au-dessus du lot. En plus, voilà, aujourd'hui, tactiquement, j'ai pas vu la télé, mais voilà, ce qui s'est dans l'échappée. Après, il a bien joué. Donc, non, c'est sûr que je connaissais déjà ses performances. Je me rappelle qu'en espoir et en junior, ils étaient déjà tenaces.
Il a remporté l'étape aujourd'hui et hier. Aurélien Paré, peintre, cycliste français de l'équipe AG2R Citroën, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir sur RMC. Et puis, bah, on se donne rendez-vous dans 3 semaines. Hein. On te suit maintenant sur le Tour de France. Salut Aurélien.
Merci. Merci
Aurélien. Merci. À très vite.
Salut,
Aurélien.
Bonne
soirée.
À toi.
Bah, quel plaisir d'avoir des sportifs français qui ont le sourire, qui sont heureux d'être là. C'est un bonheur. Arnaud Souk, merci beaucoup. Bon
merci,
repos.
Les amis.
Parce qu'à partir de dans 2-3 semaines, là, on va te retrouver pour le Tour de France.
Il y a le championnat
de France d'abord.
Eh oui, n'oublie jamais ça.
On va se régaler.
Et le Tour de France dans 3 semaines.
Grande affection pour cette épreuve.
Eh oui.
Salut Arnaud. 20h41. Salut. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Maryse Vangépé. Dans un instant, le mood EvangGP. Maryse, ne nous dévoile pas tout, mais t'es plutôt de bonne humeur ce week-end, ou c'est comment?
Non, là je suis vraiment
énervé.
Dans un instant, le mood, l'invité du RMC Sport Show, Andy Millien, l'ailière de l'équipe de France de basket avec l'Euro qui débute bientôt. Puis à partir de 21h, l'after, évidemment, autour de Gilbert Bribois. Tout de suite.
RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand.
Et Marie Zébon GP en direct jusqu'à 21h. Ensuite, ce sera l'after autour de Gilbert Bribois. À suivre Oussem, l'invité du RMC Sport Show.
Andy Meyem, ailière de l'équipe de France féminine de basket. L'équipe de France féminine qui débute son Euro le 17 juin prochain et qui a bien terminé sa campagne de préparation avec une victoire face à la Suède.
Un match de préparation à l'Euro également qui débute dans quelques instants et il est intéressant. Belgique-Croatie, vous le suivrez sur RMC avec Clément Brossard. Mais d'abord, comme toutes les semaines, Maryse, tu vas nous partager ton humeur.
RMC,
le mood Evan GP.
Bon, on a bien compris que ce n'est pas une bonne humeur ce soir.
Oui,
t'as
compris.
Non, c'est, allez, pas une, c'est pas une bonne humeur, c'est un appel, c'est un cri de gueule, mais c'est un cri de gueule en direction du Comité international olympique, parce que je pense qu'il va falloir vraiment faire quelque chose. On ne peut pas se contenter d'exclure certains pays pour des raisons d'éthique. Il faut aussi peut-être voir les pays qui sont en guerre contre leurs propres athlètes. Je parle de la Biélorussie, où l'on sait que j'avais déjà fait un coup de gueule d'ailleurs là-dessus. Plusieurs athlètes olympiques ont pris position contre le régime d'Alexandre Loukachenko, mais ce qu'on sait beaucoup moins, ce qui est beaucoup plus confidentiel, c'est qu'ils en subissent les conséquences et des conséquences qui sont dramatiques, qui vont jusqu'à l'emprisonnement et la torture.
Terrible.
Et l'exclusion des Jeux olympiques ou la préparation en solitaire. Alors on sait que depuis l'année dernière, depuis le mois d'août 2020 et cette présidentielle contestée, un certain nombre de stars en Biélorussie et notamment des acteurs du monde sportif se sont donc opposés au régime de Loukachenko. Il y a eu notamment une pétition qui a tourné. Le régime a essayé de faire pression sur ses athlètes pour qu'ils retirent leur nom de cette pétition, mais certains, bien sûr, ont continué de manifester, notamment contre la répression très violente qui était faite par le régime sur les habitants de Biélorussie. Alors, depuis un an, donc, de nombreux athlètes issus de ce pays préfèrent, plutôt que les couleurs de leur pays, porter le blanc et le rouge, qui sont les couleurs symboles de l'opposition au régime, mais ils vont en payer le prix cher. On rappelle que ce régime, très récemment, a fait dérouter un vol commercial, on s'en souvient, du fameux vol commercial.
Il y avait un attentat dans l'avion.
Exactement, à bord duquel se trouvait, comme par hasard, un opposant politique. Alors, tout le monde dit « c'est pas bien », mais pour l'instant, il n'y a pas réellement de sanctions, ce qui est quand même assez curieux. Alors, parmi les athlètes qui ont signé cette lettre contre le régime, eh bien, un certain nombre ont réussi à faire défection, c'est-à-dire à partir dans d'autres pays. D'autres sont simplement exilés, comme le décathlonien, par exemple, Andrei Kravchenka, qui fait partie des meilleurs décathloniens du monde, qui devait faire sa dernière campagne à Tokyo, probablement, puisqu'il a plus de 30 ans maintenant, largement. Mais malheureusement, il a été arrêté. Dans un premier temps, le vice-ministre des Sports est carrément venu chez lui, accompagné de deux judokas pour essayer de faire pression sur lui, pour lui demander de retirer son nom et d'arrêter de participer au match, aux marches contre le régime. Ils lui ont dit également qu'il fallait qu'il pense à sa famille, donc c'était effectivement une menace à peine déguisée. Et puis, malheureusement, malgré d'autres visites de courtoisie, je mets bien ça entre guillemets, bien sûr, Andrei Kravchenko a continué de manifester contre le régime. Il a donc été expulsé de l'équipe nationale, privé évidemment de tout ce qui va avec, l'encadrement médical. Il a perdu son emploi aussi, bien évidemment. Son boss a fait pression sur lui, mais il n'a toujours pas cédé. Il a été emprisonné pendant quelques temps. Il a subi des violences même, et puis il a fini par s'enfuir dans les bois et faire ce qui s'était passé un peu en 1968 avec les athlètes tchèques, c'est-à-dire s'entraîner seul dans les bois, tout seul, sans c'est entraîneur, terrible. Pour essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il y a très peu de chances qu'il y arrive. Il a été tabassé aussi, hein, et arrêté avec d'autres athlètes. Et c'est le cas d'un certain nombre d'athlètes comme ça, qui se retrouvent en prison pour un oui, pour un non, très rapidement. Certains, on les laisse partir quand même, puisque apparemment un certain nombre d'entre eux, une trentaine d'entre eux, ont pu avoir des visas pour se sauver dans les pays autour et obtenir un petit peu d'aide, d'installation et les documents qui leur permettront peut-être de s'installer d'autres pays, bien sûr, avec très peu de chances de se qualifier aux Jeux Olympiques, mais ça n'est pas le cas de tout le monde et ça n'est pas le cas, par exemple, de Kravchenka. Donc, moi, j'avoue que je suis non seulement très en colère, mais je pense qu'à un moment donné, c'est bien de jouer les révolutionnaires, mais il faut, on peut pas être que grande gueule. Il faut soutenir ces athlètes-là. Il faudrait faire une pétition, parce que je ne comprends absolument pas que le Comité international olympique ne mette pas la pression sur la Biélorussie, ne conditionne pas, par exemple, la participation de ce pays aux Jeux olympiques au traitement digne de ses athlètes. Normalement, c'est le rôle d'un comité olympique. Je veux bien qu'on ne mêle pas la politique et le sport, mais à un moment donné, fermer les yeux, c'est tourner le dos, et je trouve que c'est dramatique.
C'était le mot d'Evans GP. Maryse, merci. Ton humeur que tu nous partages toutes les semaines dans le RMC Sport Show. 20h48, dans quelques instants, Andy Meyen, capitaine de l'équipe de France de basket féminin avec nous. Mais auparavant, on a des directs, Oussem.
Ah oui, le football reprend ses droits. Les matchs amicaux se poursuivent en préparation donc de l'Euro 2020 qui a lieu donc en 2021. C'est la semaine prochaine. Et cette fois-ci, nous avons une rencontre. C'est Clément Brossard qui l'a suivi pour nous, excusez-moi.
Salut Oussem.
J'ai pas l'affiche. Belgique-Croatie.
Et voilà. Oui, quel match. C'est incroyable. C'est presque la finale de 2018.
J'allais te lancer sur l'affiche que tu as commenté tout à l'heure, Pays-Bas Géorgie, tu vois.
Ah ouais, celui-là il est passé, hein. 3-0 pour les Oranges, on le rappelle. Non, Belgique-Croatie, gros rendez-vous à une semaine maintenant de cet Euro, puisque la Belgique jouera face à la Russie samedi et la Croatie face à l'Angleterre dimanche. Gros match dès l'entrée d'Euro pour les hommes de Zlatko Dalic. Deux équipes qui ont on va pas dire sombré, mais en tout cas qui ont occupé beaucoup de doutes cette semaine, avec un match nul face à la Grèce pour la Belgique, un match nul un partout également face à l'Arménie pour la Croatie. Ils avaient eu énormément d'occasions, ils avaient énormément gâché, surtout dans les compos. Très rapidement, vous dire qu'Eden Hazard est sur le banc côté belge, qu'on reconfigure cette équipe avec un 3-4-2-1 habituel pour Roberto Martinez. Côté croate, on a changé la ligne d'attaque, seul Ivan Perisic reste en place, la pointe est occupée par Bruno Petkovic et le côté droit par Ante Robic. Pas beaucoup d'absents des deux côtés. La présence également en défense centrale côté croate du Marseillais Douye Kalaitachar. On joue depuis 3 minutes 30 au stade Roi Baudouin de Bruxelles, 0-0 entre Belgique et Croatie.
Belgique-Croatie, c'est quand même la presque affiche de la dernière finale de Coupe du Monde.
Et oui,
un détail près,
mais ça aurait dû être la finale de... Mais non, et non. On embrasse la Belgique et on embrasse le Poitou. Oui. Merci Clément, à tout à l'heure, 20h50. Le RMC Sport Show continue. Alors oui, il y a l'Euro de foot qui arrive très vite, mais pas que. Il y a également l'Euro de basket féminin.
L'invité du RMC Sport Show.
Ce sera du 17 au 27 juin prochain en France et en Espagne. Et nous sommes en direct avec la capitaine de l'équipe de France de basket, Andy Meyen. Bonsoir Andy.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct ce soir dans le RMC Sport Show.
Bah,
c'est avec grand plaisir.
C'est avec un grand plaisir.
On parlait de avant de rentrer dans le vif du sujet, mais c'est vrai, tout le monde parle de l'Euro de foot et énormément en ce moment. Nous, les premiers, va falloir se battre pour exister et faire parler de l'Euro féminin, Andy. Hein.
Ouais, c'est sûr. Il y a de la concurrence, mais bon, je pense que c'est de toute façon une bonne chose pour le sport français.
Andy, rentrons dans le vif du sujet. Vous venez tout juste de terminer votre campagne de préparation en vue de cet Euro. Vous terminez par une victoire face à la Suède. Vous avez connu quelques moments difficiles dans cette préparation. Quel retour vous faites, vous, sur tous ces matchs amicaux?
J'ai envie de dire un retour plutôt positif, dans le sens où déjà c'est soldé par que des victoires. Oui. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Ensuite, effectivement, on a eu quelques difficultés et je pense que c'est aussi positif parce que justement, ça nous met face à aux petites imperfections qu'on pourrait avoir, aux petits défauts qui nous restent à corriger. Donc, je pense que c'est une bonne chose que ça soit passé durant la préparation. Donc, il nous reste encore quelques jours pour continuer le travail, peaufiner un petit peu tout ça et puis pour essayer d'arriver le plus près possible.
Maryse, bon GP.
Qu'est-ce que à quelques semaines de ces Jeux Olympiques où on ne sait pas encore comment ça va se passer, est-ce que on se concentre sur l'instant présent ou est-ce qu'on se projette?
Alors là, on est vraiment sur l'instant présent. On sait qu'il va se passer d'autres choses plus tard, mais non, là, on est vraiment sur l'instant présent. On sait qu'on a un euro, on a des très gros objectifs, donc voilà, je pense que ce serait peut-être une erreur de regarder un petit peu trop loin à cette heure-ci.
Précisons les gros objectifs. C'est quoi?
Une médaille d'or, très clairement.
Oui, disons-le, Andy, nous on veut la victoire ou rien au JO, sinon on n'en voit personne. Hein, c'est ce qu'on attend, Andy, nous on veut rien d'autre. Andy, vous avez aussi dans vos rangs Sandrine Gruda. Alors je sais que c'est vraiment pas cool lorsqu'on parle d'un sport collectif de ressortir à chaque fois des individualités.
Et pourtant, Oussem va le faire.
Mais là je vais le faire parce qu'elle vient de battre un record. Et c'est important de noter les records. Avec 197 sélections en bleu, elle devient la meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus. J'imagine que tout le groupe est satisfait de ça.
Ah oui. Ben, c'est vrai qu'on l'a vraiment félicité une fois que le match était terminé. Je pense que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de battre des records. Maintenant, je pense que si c'était pas Sandrine qui le battait, je sais pas qui d'autre l'aurait fait. Voilà, c'est vraiment une joueuse extraordinaire. Donc, on est contente de l'avoir de notre côté.
Andy Meyem, la capitaine de l'équipe de France de basket féminin, est en direct dans le RMC Sport Show ce soir. L'Euro arrive bientôt. Euro en France et en Espagne. Hein, les villes Strasbourg et Valence en Espagne.
Que des belles villes. Mais pourquoi tu ris? C'est que des belles villes.
C'est pas moi qui ris, c'est Andy.
Ah, c'est Andy.
C'est vrai.
Oui, je pense qu'Andy arrive pour Strasbourg, évidemment.
Strasbourg, magnifique capitale.
Exactement.
Valence en Espagne, je connais moins.
C'est la côte, c'est très bien.
Très bien.
Très joli.
Bon, parfait. Mais en même temps, vous n'allez pas aller là-bas pour faire du tourisme. On imagine que la bonne nouvelle, c'est que à Strasbourg, en tout cas, vous jouerez devant un peu de public qui sera acquis à votre cause. C'est aussi un événement de 7 euros pour vous de retrouver autant de public.
Ah oui, ça c'est sûr que c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Le public nous a énormément manqué tout au long de cette saison. Et ce sera un réel plaisir de jouer à la maison, d'avoir du public pour nous encourager.
Andy Meyem, une dernière question.
Il faut la poser, la dernière question, Thibaut. On va faire les gros titres. Oui, l'équipe de France féminine veut aller chercher la médaille d'or au JO. On est obligé de se projeter, Andy. Voilà. On est obligé de se projeter,
alors,
Andy.
Beaucoup plus de l'euro pour la médaille d'or.
D'accord. Alors, l'objectif pour l'euro, c'est la victoire.
Ouais, clairement.
J'ai un message sur le direct studio de l'appli RMC de Tango Addicted qui dit: bonjour, Andy est une grande dame du basket français. Nous sommes hyper heureux qu'elle revienne à Bourges. Nous sommes impatients de la revoir et souhaitons-lui un bel euro. Vive le sport féminin. Bourges, ce sera juste après les JO.
Ouais. Après un petit peu de repos quand même. Ouais. Qui sera bien mérité, je l'espère. Ce sera un retour à Bourges et j'en suis très heureuse.
Bah, apparemment les supporters, oui, également.
Un peu de repos, bien évidemment, après une médaille d'or à l'Euro, une médaille d'or au JO, faut quand même se reposer.
Il n'arrête jamais celui-là. Merci Andy Meyem d'avoir été l'invité du RMC Sport Show ce soir. Bonne soirée et un très bel Euro.
Bon évidemment. Courage à vous, Andy.
RMC va
merci
vous suivre.
Merci beaucoup, bonne soirée.
À bientôt, Andy. Du 17 au 27 juin, l'Euro de basket féminin. Dans un instant, tu le sens bien, la médaille d'or. Allez, moi, j'aurais bien senti, je ne sais pas ce que t'en penses, Maryse, s'il n'y avait pas les États-Unis, quoi. Tu vois, c'est comme dans
beaucoup
de sport.
Ça me fait pas peur.
Ah bon, très bien.
Pas peur.
Pas peur, mais non, bien sûr.
Merci, Maryse. Merci.
Non, mais après, tu vas pas au JO en disant bon, bah moi j'y vais pour faire deuxième. Si tu vas pas pour faire premier, tu fais ni premier, ni deuxième, ni troisième. Hein.
J'y vais pour participer. Parce exactement. Que l'important, c'est de participer.
Pierre de Coubertin.
On dit pas ça, non. Maryse, un détour par le tennis avant l'after. C'est le début des huitièmes de finale aujourd'hui. Anthony Reche, porte d'Auteuil, on a un qualifié de plus à l'instant chez les hommes.
Ouais, il est espagnol, Alejandro Davidovich Fokina, le jeune espagnol de 22 ans qui se qualifie donc pour la première fois de sa carrière pour un quart de finale en Grand Chelem. Il avait notamment gagné Wimbledon chez les juniors. Il s'est imposé en 4 manches face à l'autre surprise, un petit peu de ce tableau d'Elbonis. Voilà, c'est une bonne sensation, un bon battant, un bon terrien. Davidovich Fokina qui passe le tour, le cap des huitièmes de finale.
Merci Anthony Reich en direct de la Porte d'Auteuil. À partir de 21h, la Night Session sur RMC notamment, mais ce sera après l'after qui arrive dans
exactement,
un instant.
Gilbert Gribois. 3 heures de football. On reviendra sur les matchs amicaux de la journée. Un gros programme avec Gilbert.
Et oui, puisque l'Euro arrive bientôt. Salut Maryse, passe une bonne semaine.
Salut.
À très vite. Passez une bonne soirée sur RMC. À bientôt. Ciao.